Et avant d'entrer dans les détails, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a inventé des langages de programmation. Donc il y a une réponse qui n'est pas incorrecte, mais qui est très insuffisante, qui est qu'on a besoin d'avoir des langages de programmation pour exprimer des algorithmes. Et donc c'est vrai que les langages de programmation servent à exprimer des algorithmes, mais c'est vrai aussi qu'on savait exprimer des algorithmes bien avant d'avoir des langages de programmation. Vous connaissez l'algorithme du pivot de Gauss, vous connaissez l'algorithme d'Euclide, mais 2000 ans avant Euclide, en 2500 avant Jésus-Christ, les scribes en Égypte et en Mésopotamie connaissaient déjà des algorithmes et savaient déjà les exécuter. Alors on dit souvent qu'ils savaient faire des quatre opérations, mais ils savaient faire beaucoup plus que ça. Ils savaient faire des calculs de taux d'intérêt composés. Donc si vous empruntez une somme d'argent sur un an et que vous avez un certain taux sur deux ans, vous savez que le taux n'est pas double, mais il y a un algorithme plus complexe pour le calculer. Et cet algorithme était déjà connu. Il y a des tentatives de taux d'intérêt inverse, de taux d'intérêt composé inverse. Si on connaît le taux d'intérêt annuel, comment trouver le taux d'intérêt sur un mois? Il y a des calculs d'héritage qui demandent de résoudre des équations du second degré. Et puis, bien sûr, les Égyptiens et les scribes en Mésopotamie ne connaissaient pas le théorème de Pythagore, mais ils connaissaient un algorithme qui avait cette forme. Il disait, veux-tu calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle? Oui, dans ce cas-là, prends les côtés, élève-les au carré, ajoute-les, prends la racine carrée et tu obtiendras l'hypoténuse. Donc c'est un algorithme qui permet de calculer la longueur de l'hypoténuse et vous voyez qu'on n'est pas très loin du théorème de Pythagore. Alors cependant, cet art ou cette science de l'expression des algorithmes a complètement changé au XXe siècle. Et elle a changé, bien entendu, parce qu'on a eu des machines qui étaient capables d'exécuter ces algorithmes. Les scribes de l'Antiquité exécutaient les algorithmes eux-mêmes à la main. Et à partir du moment où on a eu des ordinateurs, le langage dans lequel on a exprimé ces algorithmes a dû changer. Donc, jusqu'au milieu du XXe siècle, on pouvait exprimer les algorithmes en langue naturelle. Et les mathématiciens ou les scribes qui lisaient ces algorithmes comprenez quoi faire et comprenez comment résoudre des problèmes concrets, mais c'est pas le cas quand on a des ordinateurs et on ne peut communiquer avec des ordinateurs qu'en utilisant un langage formel. Et donc un langage de programmation, c'est simplement un langage qui permet d'exprimer des algorithmes et qui est par ailleurs un langage formel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un langage formel? Eh bien, c'est un sous-ensemble du monoïde libre sur un alphabet fini. Donc vous vous donnez un ensemble de lettres, L. L étoile, vous connaissez sans doute cette notation, c'est l'ensemble des mots finis dont les lettres appartiennent à L. Donc si vous prenez ici les 26 lettres de l'alphabet ou l'ensemble des clés de votre clavier ou peu importe, vous obtenez ici un ensemble de mots et un langage formel. C'est simplement un sous-ensemble de cet ensemble qu'on sait définir mathématiquement. Donc par exemple, cet ensemble est constitué de tous les mots de longueur non vide qui ne contiennent que la lettre A. Et donc ça, on sait définir mathématiquement cet ensemble, c'est un langage formel. L'ensemble des mots qui ont un nombre pair de lettres est aussi un langage formel, puisqu'on sait définir la longueur d'un mot, on sait définir la parité d'un nombre. Donc tout ça, c'est défini mathématiquement. Et on a utilisé parfois des langages formels avant l'invention des ordinateurs, et souvent de manière extrêmement restreinte. Donc l'exemple le plus développé de langage formel qu'on connaissait avant les ordinateurs, c'est la notation musicale. Il y a des œuvres musicales qui font 10 ou 20 pages de partitions, et donc on a des textes relativement longs. Et puis, de manière plus sporadique, ici, vous avez une ordonnance qui prescrit des lunettes, et vous voyez que la grammaire dans laquelle les lunettes sont prescrites est extrêmement précise. Par exemple, vous pouvez absolument pas enlever cette paire de parenthèses. Si vous enlevez cette paire de parenthèses, vous avez des lunettes qui ont une correction différente ou vous avez une erreur de syntaxe. La personne qui fabrique les lunettes n'est plus capable de les fabriquer. Alors, il y a de nombreux langages formels qu'on utilise en informatique et tous ne sont pas des langages de programmation. Par exemple, ici, je vous ai donné l'URL de la page du cours. Donc vous pouvez la noter, vous trouverez sur cette page le poly, vous trouverez les feuilles d'exercice de TD, vous trouverez les horaires des cours et des TD, enfin vous trouverez toutes les informations relatives aux cours. Et donc la manière dont je vous communique cette adresse eh bien, obéit à une syntaxe très, très, très formelle. Ici, par exemple, il faut mettre deux slash, et si j'en mets un seul, eh bien, l'adresse est incorrecte. Le texte lui-même de la page est juste un ensemble de lettres. Comme vous voyez, vous pourrez lire « pour aborder de nouveaux langages dans la suite de leur cursus à l'école » et blablabla. Mais comme il y a de plus tout un tas d'indications typographiques, comme par exemple le fait que ici vous avez un lien cliquable, ici il faut tracer un trait au milieu de l'écran, ça il faut le mettre en gras, un peu plus gros que les autres caractères, mais pas aussi gros que si j'avais mis H1, eh bien il y a un langage formel qui permet de décrire ces documents, et ce langage s'appelle HTML. Ce n'est pas un langage de programmation, puisque quoique formel, il ne permet pas d'exprimer des algorithmes. Et au sein de tous ces langages formels, il y a les langages de programmation, et donc voici un petit exemple d'une fonction qui vous calcule l'hypoténuse d'un triangle rectangle en appliquant l'algorithme dont je vous parlais tout à l'heure. Vous élevez x au carré, vous élevez y au carré, et vous prenez la racine carrée. Et là, on a un exemple d'utilisation de cette fonction. On appelle la fonction hypoténuse sur 3 et 4, et on espère que le résultat sera 5. Bien, donc, la double contrainte qui est imposée quand on conçoit un langage de programmation, c'est que le langage doit être lisible par une machine, et ça, ça en fait un langage formel, et il doit également être lisible par un être humain. C'est-à-dire les personnes qui vont écrire des programmes sont parfois des programmes, mais parfois des personnes, et donc il faut que ce langage se rapproche plus ou moins d'une langue naturelle. Toute l'histoire de la théorie des langages de programmation, c'est comment on est passé de langage de programmation qui, pour un algorithme comme celui qui était sur le transparent précédent, disait 0011110001, à un langage comme celui qu'on avait vu, le langage Java, qui était dans le transparent précédent, qui se rapproche plus ou moins de la manière naturelle d'exprimer un algorithme. Alors, je vous disais tout à l'heure que les langages de programmation sont une avancée importante dans la science du XXe siècle, et une des raisons pour laquelle ceci est vrai est que, de la même manière qu'on peut écrire un programme de 6 lignes, comme celui que je vous avais montré dans le transparent précédent, il est aussi possible d'écrire des programmes de 1 million de lignes. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Si vous regardez la complexité des objets industriels antérieurs au programme, les locomotives à vapeur, les appareils photo, les postes de radio, ces objets n'ont pas une complexité. Ils ne sont pas décomposables en 1 million d'objets atomiques. Ils sont décomposables en beaucoup moins d'objets. Et donc, l'invention des langages de programmation a permis un saut dans la complexité des objets qu'on a manipulés en science ou dans l'industrie. Alors, ce saut dans la complexité, beaucoup de gens s'en sont l'ont remarqué. Et là, je vous ai mis une bande dessinée que j'ai découpée dans un journal. Donc, elle fait partie de la série des Dilbert. Alors, c'est rarement drôle, Dilbert, mais ici, ça exprime bien ce que je voulais dire. Donc, vous voyez, vous avez un personnage dont j'ai oublié le nom qui explique quelle est sa réalisation du moi. Sa réalisation du moi, c'est qu'il a réussi à lire un fichier qui lui avait été envoyé en attachement par mail. Alors son patron est un peu surpris que ça lui ait pris un mois, mais il explique que c'était plus compliqué que ça en avait l'air, puisqu'il n'avait pas le logiciel qui permettait d'ouvrir le fichier, donc il a voulu l'installer sur son ordinateur. En fait, il a voulu juste upgrader, récupérer la dernière version. Mais pour ça, il fallait qu'il aille sur un site web pour récupérer la nouvelle version du logiciel, mais son navigateur ne supportait pas. Enfin, le site web ne supportait pas son navigateur. Non, c'est le contraire, le navigateur ne supportait pas le site web. Donc, il a dû d'abord upgrader son navigateur. Mais pour ça, ça lui a demandé d'upgrader son système d'exploitation. Puis, son ordinateur étant trop petit, il a dû commander de la mémoire. Et donc, au bout d'un mois, il a réussi à lire son fichier. Et donc, c'est une histoire drôle qui raconte l'histoire d'un chat. Donc, on n'en saura pas plus. Mais vous voyez qu'il y a ici une chaîne d'événements qu'on n'a pas du tout, si vous pensez à la machine à vapeur. Si vous lisez des livres sur la machine à vapeur, on n'arrive jamais à dire qu'il fallait changer la cheminée de la machine à vapeur, et pour ça, on a finalement changé toute la machine. Donc, c'est une situation qui est tout à fait nouvelle, et qui vient du fait qu'on manipule des objets d'une complexité qu'on n'avait jamais manipulée avant. Alors ça, c'est un autre exemple. La première année où j'ai fait ce cours, la veille du premier cours, j'étais dans un avion, et j'ai trouvé ce journal qui est un journal japonais en anglais, et dans lequel j'ai trouvé un article qui raconte que la JR, la SNCF japonaise, avait eu tous ses distributeurs de billets qui étaient tombés en panne en même temps. Et d'ailleurs, ce n'était pas la seule panne qui s'était produite ce jour-là. Il y avait plusieurs journaux au Japon qui n'avaient pas pu être imprimés. Donc on se dit, quel rapport il y a entre les deux? Eh bien, quand vous lisez l'article, c'est tout simplement qu'une petite entreprise qui était située tout au nord du Japon, donc à des centaines de kilomètres de là, fabriquait un antivirus. Cet antivirus était utilisé aussi bien par le système informatique de la compagnie des trains que par des imprimeries qui imprimaient les journaux. Et ils ont fait à distance un upgrade de cet antivirus. Et ils ont upgradé un antivirus qui était correct pour un antivirus buggé. Et donc, ils ont planté tous les ordinateurs à la fois de cette entreprise de train et toutes les imprimeries. Donc, c'était la même cause qui avait créé ces différents désordres. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. On n'a jamais entendu parler que toutes les machines à vapeur, toutes les locomotives d'un pays s'arrêtaient à la même minute parce que à 300 km de là, quelqu'un avait fait un upgrade du vilebrequin de la machine à vapeur. Donc ce type d'erreur, ce type de panne est également tout à fait nouvelle et c'était des pannes auxquelles on n'était pas préparé. Alors en retour, le fait d'avoir des objets aussi complexes que les programmes d'un million de lignes a permis la conception d'autres objets d'une complexité tout à fait nouvelle. Et donc l'exemple le plus typique, c'est les circuits intégrés, où aujourd'hui on a sur une même puce jusqu'à 500 millions de transistors. En fait, je pense qu'aujourd'hui on a dû passer le milliard. En gros, chaque année, je double le nombre qui se trouve ici. En fait, il faut le doubler tous les 18 mois. Et donc, bien entendu, quand vous concevez un circuit qui comporte 500 millions de transistors, même 1 million de transistors, vous pouvez pas prendre une petite page de votre calepin, puis commencer à dessiner le premier transistor, puis le deuxième transistor, puis le troisième transistor. Donc ça, c'est pas possible. D'accord? Il vous faudra une feuille, vous pouvez faire des calculs sur la taille de la feuille. Il faudrait qu'elle dépasse la Lune ou je sais pas quoi. Enfin bon, des choses comme ça. Et donc, vous n'avez un moyen de concevoir cet objet que si vous le concevez en utilisant un ordinateur. C'est-à-dire, le plan lui-même ne sera jamais imprimé. Vous n'aurez que des vues partielles à certains moments, vous pourrez regarder certains circuits et puis vous les assembler à un niveau supérieur. Alors d'autres exemples, ce sont des démonstrations mathématiques qui font des centaines de millions de pages. Donc la démonstration du théorème des quatre couleurs, par exemple, qui a été faite en utilisant un ordinateur, si on voulait l'imprimer, on aurait 500 millions de pages. Donc une fois, j'avais essayé d'expliquer à un journaliste qu'il y avait une démonstration mathématique qui faisait 500 millions de pages, et il me disait, mais comment est-ce que quelqu'un a pu écrire 500 millions de pages? Alors j'ai essayé de lui expliquer d'abord que 500 millions de pages, ça demandait et que de toute façon, personne n'aurait le temps de l'écrire, donc c'était un ordinateur qui blablabla, c'était juste une projection au cas où on imprimait ça. Et il m'a dit, oui, j'ai compris, etc., donc tout allait bien. Et puis au moment où on serrait la main, il m'a dit, quand même 500 millions de pages, j'aimerais bien rencontrer le type qui les a écrites. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis. Alors, si on se focalise un peu plus sur la zoologie des langages de programmation, la première chose à savoir, c'est qu'il y en a plus que 2000. Donc même si pendant votre séjour à l'école, vous arrivez à apprendre 10 langages de programmation, il en restera toujours 1990 que vous ne connaissez pas. Et donc le nombre de langages de programmation que vous ne connaissez pas aura extrêmement peu varié. Donc l'idée que connaître les langages de programmation consiste à en apprendre un premier, puis un deuxième, puis un troisième, elle est aussi absurde que l'idée qu'apprendre la biologie, ça consiste à apprendre le premier jour le chien, le deuxième jour le chat, le troisième jour la grenouille, et qu'un jour on aura fini toutes les espèces et on connaîtra toute la biologie. Donc l'apprentissage des langages de programmation ne consiste pas à apprendre les langages l'un après l'autre. De plus, avant que vous sortiez de l'école, en 2012, ce qui est très proche, hein, ça va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez, ben, il y aura de nouveaux langages de programmation sur le marché. Et donc, même si on vous avait appris un langage de programmation, moi, on m'avait appris Pascal quand j'étais à votre place, et puis aujourd'hui, Pascal a disparu. Donc, c'est pas parce que j'ai appris Pascal que j'avais progressé, c'est parce que apprendre Pascal m'a appris d'autres choses. Alors, fort heureusement, les langages de programmation sont organisés autour de principes communs. L'affectation, la boucle, la notion de cellule, la notion de passage par référence, qu'on va retrouver ou non dans tous les langages. Et C'est pas une situation extrêmement surprenante. Vous savez que les langues naturelles, on peut toutes les apprendre. Il y a 6000 langues, vous pouvez les apprendre l'une après l'autre. Mais cependant, une fois que vous connaissez 10 ou 12 langues, apprendre les langues suivantes est beaucoup plus facile. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'une fois que vous avez compris des notions de grammaire abstraites, que vous avez compris ce qu'est un pronom, que vous avez compris ce qu'est un mode, un aspect, que vous avez compris ce qu'est une déclinaison ou une conjugaison, eh bien, quand vous apprenez une nouvelle langue, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez déjà les concepts pour l'appréhender. Alors, bien sûr, il y a des langues sans conjugaison, il y a des langues sans déclinaison, de manière qu'il y a des langages de programmation sans affectation ou sans boucle. Mais l'important, c'est de comprendre les concepts. Et beaucoup plus qu'avec les langues naturelles, une fois que vous avez compris ces concepts, ben, quand il y a un nouveau langage de programmation que vous devez apprendre, bien, vous posez tout de suite les bonnes questions. Comment est-ce qu'on fait une affectation? Comment est-ce qu'on fait une boucle? Ou une cellule? Et une fois que vous avez compris ça, ben, vous avez déjà une bonne compréhension globale du langage de programmation. Il vous reste plus qu'à vous concentrer peut-être sur certaines spécificités de ce langage-là, par opposition à d'autres. Donc, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le but d'un cours comme celui-ci n'est pas de comprendre les idiotismes de Java ou de Camel. Idiotisme veut dire particularité, et c'est de comprendre les principes autour desquels les langages de programmation sont organisés. Et pour ça, apprendre un seul langage ne suffit pas. Si vous n'apprenez que Java, par exemple, eh bien, vous ne serez pas capable de comprendre quels sont les idiotismes de Java et quels sont les principes universels qui se trouvent réalisés dans Java. Donc pour ça, il est obligatoire de comparer le langage qu'on apprend avec d'autres. Et c'est seulement par cette comparaison qu'on peut dégager les principes universels. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut qu'à la fin du cours, vous soyez capable de programmer dans différents langages. Mais de la même manière que quand on fait de la grammaire comparée, ben, on est amené à comparer la grammaire de plein de langues, y compris des langues d'autres qu'on ne saurait pas utiliser dans la rue pour se débrouiller, eh bien ici, de la même manière que il faudra à la fin du cours que vous ayez certaines connaissances sur les langages de programmation Camel et C, qui sont les langages auxquels on va comparer Java, même si vous ne savez pas écrire un million de lignes en Camel ou un million de lignes en C dans la nuit. Donc les objectifs du cours, ils se déclinent de cette manière. Il y a d'abord Java qui sera notre langage principal, et donc il y a une partie, un objectif du cours, c'est que vous appreniez à programmer en Java, qu'à la fin du cours, vous sachiez écrire un programme en Java. Il y a de comprendre les principes des langages de programmation, et ça, ça va demander une comparaison avec d'autres langages, et on a choisi deux langages ici qui sont Camel et C. Et deux autres objectifs, le premier, c'est de commencer à comprendre les outils qui permettent d'exprimer la sémantique d'un langage de programmation. Donc ça, on va revenir à ça à la fin de cet amphi, mais si vous voulez développer ce point, eh bien, il faudra prendre en troisième année un cours qui s'appelle « Introduction à la théorie des langages de programmation », qui va beaucoup plus loin dans cette direction, qui commence par décrire les outils qui permettent d'écrire la signification des programmes et qui utilise ces outils pour écrire des interpréteurs, des compilateurs, etc. Et puis, dernier objectif, bien que ce cours ne soit pas un cours d'algorithmique, il y a un objectif mineur qui est de comprendre un certain nombre d'algorithmes sur les listes, sur les arbres et sur les tableaux. Et en revanche, si vous voulez développer cet aspect algorithmique, eh bien, c'est le cours long de deuxième année qui vous permet d'entrer plus dans les détails avec des algorithmes sur les graphes, des algorithmes sur les mots, les notions de grammaire, des analyseurs syntaxiques, etc. Donc, un petit mot d'organisation. Le cours est organisé en 10 blocs, c'est-à-dire en 10 amphis et 10 séances de TD. Et les séances de TD ne sont pas indépendantes les unes des autres. On a coupé, en gros, les 10 séances en 3 groupes de 3 séances, bien sûr, 3,33, et chaque groupe de 3 séances est consacré à un projet. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu artificiel de vous donner un exercice à faire en 2 heures. Personne n'a jamais écrit un programme en 2 heures. Donc on a regroupé 3 séances de TD de 2 heures pour vous proposer un mini-projet qui est plus ambitieux que ce qu'on peut faire en 2 heures. En plus, ça vous permet de travailler entre les séances et de réutiliser ce que vous avez fait entre les séances au TD suivant. Alors il y a 2 séances de tutorat. Le tutorat, c'est un système où il y a un enseignant qui est dans une salle, qui est en libre service, entre guillemets, et vous allez le voir avec des problèmes spécifiques. Au départ, on avait mis en place ces séances de tutorat parce qu'il y avait des élèves qui avaient des difficultés à installer Java sur leur machine, etc. Et on ne voulait pas perdre du temps en t'aider à faire ça. Donc on avait mis ces séances de tutorat à l'extérieur. Et puis, on s'est aperçu que souvent, des élèves allaient poser des questions aux enseignants un peu plus générales. Et donc, on a gardé ces deux séances de tutorat. Tous les horaires de ces séances sont sur la page web du cours. Alors, comme tout cours, il y a à la fin du cours une évaluation. Et ici, il y a deux étapes dans cette évaluation. Le 16 juin, le jour du TD numéro 7, eh bien là, pour une fois, il y aura un TD qui sera juste en 2 heures. Et à la fin des 2 heures, on va relever les programmes que vous avez écrits. Et ce TD sera noté et vous donnera une note T. Et puis le 6 juillet, il y a une composition sur table. Qui, elle, est sans machine, sur papier, et qui vous donnera une note P. Et votre note finale au module sera le max de T plus 2P sur 3 et P. D'accord? Donc, vous commencez par faire la moyenne pondérée de votre note de TD et de votre note de composition avec les pondérations 1/3, 2/3. Ça vous donne une première note. Si cette note est inférieure à votre note finale, eh bien c'est la note finale qui prime parce que vous avez progressé, donc on oublie le TD. Et en revanche, si vous avez régressé pendant le cours, eh bien on tient compte de cette note, de cette moyenne. Et puis après, tout ça est transformé en une lettre qui est ABCD ou E, et j'espère qu'il n'y aura pas de E et qu'il n'y aura quasiment pas de D. Alors juste un dernier point, le poli, vous l'avez sans doute tous perçu à la scolarité. Sachez, si vous parlez mieux l'anglais que le français, que le poli existe aussi en anglais et vous pouvez le trouver à la bibliothèque. La numérotation des paragraphes, la numérotation des exercices est rigoureusement identique et donc vous pouvez quasiment le décalquer ligne à ligne. Donc si vous préférez lire l'anglais que lire le français, vous pouvez utiliser le poli en anglais. Voilà, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Et la première partie de cet amphi est consacrée au noyau impératif. Donc, qu'est-ce que c'est que le noyau impératif? C'est un ensemble de constructions qu'on retrouve dans quasiment tous les langages de programmation et qui est formé de la déclaration de variables, de l'affectation de variables, de la séquence, du test et de la boucle. Donc, ce sont, si on veut, les 5 constructions les plus simples qu'on trouve dans un langage de programmation. Donc, commençons par les décrire une par une. L'affectation. Donc, la forme générale d'une instruction qui est une affectation, c'est celle-ci. Vous avez le signe égal, qui est le symbole de l'affectation. Avant le signe égal, vous mettez le nom d'une variable. Ici, elle s'appelle x. Et après le signe égal, vous mettez une expression quelconque qui s'appelle t. Et un exemple de ça, c'est x égale 3 plus y. L'instruction d'affectation se termine toujours par un point-virgule, donc ça c'est une particularité de la syntaxe de Java, ainsi que d'autres langages de programmation. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est un mot qui est formé d'une ou plusieurs lettres, donc x est une variable, xy est une variable, 3 n'est pas une variable, plus n'est pas une variable. Et une expression, eh bien c'est formé à partir des constantes comme 3, des variables comme y ou x, avec un certain nombre d'opérations. Plus qui est l'addition, moins qui est la soustraction, étoile qui est la multiplication, et deux opérations qui sont la division, qui est sur les entiers, et pour le moment on ne parle que d'entiers, on va parler de flottants tout à l'heure, qui est la division euclidienne, c'est-à-dire la division où vous vous arrêtez quand vous avez un nombre entier, et puis vous avez une autre opération qui vous donne le reste de la division, qui est le symbole pourcent en Java, ainsi que dans un certain nombre d'autres langages. Donc, cette instruction, elle s'écrit comme ça en Java. En C, elle s'écrit exactement de la même manière. Et en Camel, elle s'écrit d'une manière un tout petit peu différente. Il y a 3 différences. La première, c'est qu'il n'y a pas de point-virgule à la fin en Camel. Bon, ça, c'est juste une différence de syntaxe. La deuxième, c'est qu'on n'utilise pas le symbole égal, mais on utilise le symbole 2 points égal. Ça, encore une fois, c'est juste une différence de syntaxe entre Camel d'un côté et Java et C de l'autre. Et une autre différence, c'est que ici, on avait mis la variable y en Java et en C. Et là, on précède la variable y d'un point d'exclamation. Et on va expliquer pourquoi il y a ce point d'exclamation en camel tout à l'heure. Ça, ce n'est pas une petite différence de syntaxe. Ça reflète un choix différent dans la signification des variables en camel et en Java. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on exécute une instruction comme x égale t? Eh bien, pour décrire ce qui se passe, on est obligé de supposer qu'il y a quelque part, dans à l'intérieur de l'ordinateur, là, si j'enlevais les quatre vis et que j'ouvrais l'ordinateur, je trouverais un endroit qui est presque un endroit physique, on peut le penser comme un endroit physique, qui est une boîte dans laquelle on va mettre une valeur. Et la valeur qu'on va mettre dans cette case, dans cette boîte, c'est la valeur de t. Et la valeur qui s'y trouvait avant est oubliée. Et donc si on met, par exemple, si on a x égale 3, ben, on va mettre la valeur de 3, c'est 3. Si on a x égale 5 plus 3, ben, on va, pour trouver la valeur de cette expression, on va effectuer l'addition et on va mettre 8. Et si on a y plus 3, et ben, on va mettre 10. Sans doute que y vaut 7. Donc il va falloir préciser ça. Donc j'ai ouvert l'ordinateur. J'ai essayé de chercher s'il y avait des boîtes, et j'en ai trouvé une, la voici. Donc ça, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur, un petit peu grossi. Donc, une chose importante, c'est que cette boîte est bleue, et plus tard dans le cours, on verra des boîtes rouges. Donc le moment où on va introduire les boîtes rouges est un des moments importants du cours, c'est le moment où on introduira une nouvelle notion qui demandera d'avoir des boîtes rouges, mais aujourd'hui, on peut se limiter à des boîtes bleues. Alors bien sûr, il n'y a pas une seule boîte dans l'ordinateur. Il y en a plusieurs, donc au moins deux. Et l'ensemble du contenu de ces boîtes constitue ce qu'on appelle l'état dans lequel le programme est exécuté. C'est l'ensemble des valeurs des variables à un instant donné. Et bien sûr, cet état évolue au cours de l'exécution du programme. Donc ça, c'était l'affectation. Deuxième construction, la déclaration. Vous voyez que tout à l'heure, si j'avais voulu faire x égale 1, par exemple, c'est-à-dire mettre la valeur 1 dans la boîte x, il aurait fallu que la boîte se trouve sur la table. Or, vous voyez qu'elle ne se trouve pas sur la table. Donc il y a une opération qui consiste à mettre une boîte sur la table, et ça s'appelle une déclaration. Donc là, je déclare une variable x en mettant la boîte sur la table. Donc c'est la deuxième opération. Ça consiste essentiellement à associer le nom X à cette boîte. Vous voyez que cette boîte, je peux enlever le nom. Ici, j'ai une boîte anonyme. Et la déclaration, c'est d'associer le nom X à la boîte. Voilà, ça, c'est la déclaration. Donc, mettre la boîte sur la table et lui associer un nom. En Java, ça s'écrit comme ça. Int X égale T. T, encore une fois, une expression quelconque. Point virgule P. Et P, ici, c'est une instruction quelconque. Donc par exemple, int x égale 5, point virgule, x égale 3 plus y. Cette expression t, c'est la valeur initiale de la boîte. Au moment où je mets la boîte sur la table, il faut qu'elle ait une valeur. Une boîte n'est jamais vide. Il se peut qu'elle ait une valeur qui ne vous intéresse pas, mais une boîte contient toujours une valeur. Et donc je peux spécifier cette valeur ici en disant c'est 5. Et l'instruction qui se trouve ici, P, qui dans cet exemple est x égale 3 plus y, c'est l'ensemble, c'est la partie du programme dans lequel j'ai le droit d'utiliser cette variable x. C'est ce qu'on appelle la portée de la variable x. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que j'aurai terminé d'exécuter cette instruction P, eh bien, je vais retirer la boîte de la table et donc je ne pourrai plus parler de la boîte x. Donc, le programme contiendra une erreur si, hors de cette expression P, je parle de X. En C, la déclaration est exactement comme en Java. Donc, vous voyez que aussi bien pour l'affectation que pour la déclaration, C et Java sont exactement pareils. En camel, la syntaxe est différente. Pour déclarer une variable, on écrit let X égale ref 5 in P. Donc, il y a des différences de syntaxe. Let in, qui remplace le point virgule. P, c'est pareil. Et il y a cette bizarrerie qu'on met un ref avant le 5. Et on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Bien, alors un petit mot sur les valeurs que peuvent contenir une boîte. Même si une boîte est déclarée de type entier, int signifie integer, ça veut dire entier, eh bien, elle ne peut pas comprendre un entier relatif quelconque. Cet entier est borné et il doit être compris entre moins 2 puissance 31 et 2 puissance 31 moins 1, ce qui fait combien de valeurs? 2 puissance 32, donc pensez à ajouter le 0, c'est pour ça qu'il y a un moins 1, pour qu'il y ait une place pour le 0. Et outre int, il y a trois autres types d'intervalles qui s'appellent byte, short et long. Byte, il y a 2 puissance 8 possibilités, donc ça va de moins 2 puissance 7 à 2 puissance 7 moins 1. 2 puissance 7, c'est 128, donc ça va de moins 128 à plus 127. Short, il y a 2 puissance 16 possibilités. Int, il y en a 2 puissance 32. Et long, il y en a 2 puissance 64, c'est-à-dire ça va de moins 2 puissance 63 à 2 puissance 63 moins 1. Donc, on voit ici qu'il y a 4 types de boîtes qui s'appellent byte, short, int, long, et toutes ces boîtes permettent de peuvent contenir des entiers. Il y a d'autres types, qu'on appelle des types scalaires, des types primitifs, et il y en a un qui s'appelle booléen et qui contient juste possiblement deux valeurs, true et false, c'est-à-dire une variable de type booléen contient ou bien la valeur true ou bien la valeur false. Et il y a deux types pour les flottants. Les flottants, ce sont les nombres à virgule. Et encore une fois, il y en a deux parce qu'on peut donner plus ou moins de décimales, plus ou moins de précision au nombre. Ils s'appellent float et double. Et puis, il y a un type qui contient des caractères. Donc, par exemple, la lettre G est un caractère. Mais attention, ce n'est pas des chaînes de caractères, c'est un seul caractère. Et donc, ces huit types forment les types primitifs de Java. Et quand on aborde un nouveau langage de programmation, une des choses qu'on doit comprendre, c'est quels sont les types primitifs. Et en Java, la réponse est il y a 8 types primitifs, 4 pour les entiers, 2 pour les flottants, 1 pour les booléens, 1 pour les caractères. Si on appelle ces types primitifs, c'est qu'il y aura d'autres types qui ne sont pas primitifs, qu'on va voir plus tard, et qu'on appelle des types composites. Et les types composites vont nous occuper une bonne partie de ce cours, à partir des séances 4, 5, 6. Et comme on en aura besoin dans les exemples, je vais tout de suite vous donner un type composite, qui est string, le type des chaînes de caractères. Et on écrit une chaîne de caractères comme ça, entre guillemets, bonjour, alors qu'ici, un caractère se met juste entre apostrophes. Du coup, la déclaration que vous avez donnée tout à l'heure, où on disait c'est int x égale tp, ben, elle se généralise. À la place de int, on peut mettre boolean, long, short, byte, char, on met n'importe quel type ici. Et donc la forme générale d'une déclaration, c'est ça, tx égale t dans p. Bien, une autre précision que l'on peut donner quand on déclare une variable, c'est de déclarer que la variable est finale. Qu'est-ce que c'est qu'une variable finale? Qu'est-ce que c'est que déclarer une variable finale? C'est déclarer une variable tout en s'engageant à ne jamais l'affecter. Donc c'est important que cette variable ait une valeur initiale, parce que c'est la seule valeur que la variable va garder tout au long de l'exécution du programme. Donc dans ce cas-là, on rajoute un mot-clé qui est le mot-clé final, et la déclaration devient finale, puis on indique le type de la variable, puis la valeur initiale, et enfin l'instruction qui est la portée de la variable. Et par exemple, ici, on a écrit final int x égale 5, et ensuite on a une affectation y égale x plus 3. Alors pourquoi est-ce que cette instruction est correcte? Pourquoi est-ce qu'elle est correcte, bien qu'il y ait ici une affectation? Parce que la variable que l'on affecte n'est pas x. Donc on utilise x à droite du signe égal, ça ne pose pas de problème. C'est exactement comme si on avait mis 5 à la place de mettre x. D'ailleurs, à l'intérieur de la machine, il est possible que la boîte ait été supprimée et que partout où il y avait x, on ait remplacé ça textuellement par 5. Mais ça ne vous regarde pas. Vous, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une boîte qui contient 5 et qui ne va jamais changer. Et en revanche, cette expression est incorrecte, puisqu'on a déclaré une variable finale ici, et ensuite on a tenté de l'affecter. Et donc là, le compilateur va vous donner un message d'erreur. Donc un peu de vocabulaire, une variable qui n'est pas finale, eh bien elle s'appelle une variable mutable, c'est-à-dire une variable dont on peut changer la valeur. Et en Java, par défaut, toutes les variables sont mutables. c'est quand on veut déclarer une variable finale qu'on est obligé de rajouter le mot-clé final. En C, c'est pareil, et c'est la première différence entre C et Java qu'on va voir, c'est que le mot-clé final, eh bien, il ne s'écrit pas final, il s'écrit const. C'est une constante, en C, ça s'appelle une constante, ça s'appelle pas une variable finale. Et en Camel, c'est différent. En Camel, on garde, vous vous souvenez que c'était ça la manière de déclarer une variable, let x égale ref 5 in P, et en fait, maintenant, on a supprimé le ref qui se trouve ici pour écrire let x égale 5 in P, et dans ce cas-là, la variable x est finale. Et vous voyez que, autant, par défaut, les variables sont mutables en Java et en C, autant par défaut, elles sont autant elles sont finales en Java et en C, autant elles sont mutables en Camel. On ajoute un mot-clé pour dire qu'une variable est finale en Java, on ajoute un mot-clé pour dire qu'elle est mutable en Camel. D'accord ? Le mot-clé indique qu'elle est finale dans un cas, qu'elle est mutable dans l'autre. Quand on a une variable mutable, une variable finale, pardon, en Camel, au lieu d'écrire point d'exclamation x pour connaître la valeur de x, on écrit juste x. Donc exactement comme en Java et en C. En Java et en C, on écrit toujours x pour connaître, pour exprimer la valeur d'une variable x. En Camel, quand la variable est finale, on écrit x, et quand elle est mutable, on écrit point d'exclamation x. Bien, donc ça termine le cas de la déclaration. Donc on a vu la déclaration et l'affectation. Troisième construction du noyau impératif, la séquence. Donc la séquence, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est la construction la plus simple des langages de programmation. On juxtapose simplement deux instructions, P1 et P2, et en gros, on doit exécuter P1, puis exécuter P2. Par exemple, ici, deux affectations, x égale 1, suivi de y égale x plus 1. En C, ça s'écrit comme en Java, encore une fois. En Camel, il y a une différence, il faut mettre un point-virgule entre P1 et P2. Mais faites attention, en Java, le point-virgule fait partie de l'instruction. Toutes les instructions, plus ou moins, se terminent par un point-virgule. Vous vous souvenez que l'affectation se terminait par un point-virgule. Et donc, c'était pas le cas en Camel. Donc, on met le point-virgule pour marquer la séquence, mais il est aussi là en C et en Java, sauf qu'il fait partie de P1. Bon, c'est juste une différence de syntaxe un peu superficielle. Bien, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la séquence. On arrive au bout, il nous en reste deux, qui sont le test et la boucle. Le test, c'est extrêmement simple également. If, une expression booléenne, P1, else P2. Exemple, if x est négatif, strictement négatif, y égale moins 1, else y égale 1. Donc ça, c'est en gros, on est en train de calculer le signe de x. Si x est négatif, le signe c'est moins 1, sinon c'est 1. Et quand on exécute cette instruction, vous vous doutez de ce qu'on fait. On commence par calculer la valeur de B. Cette valeur de B, c'est ou bien true ou bien false. Si c'est true, on exécute P1. Si c'est false, on exécute P2. On a exactement les mêmes constructions de test en Camel et en C. En Camel, la différence, c'est if B, attention, pas de parenthèse, then P1. Ici, il n'y a pas de mot-clé then, ici, il y a un mot-clé then. Else P2, pareil. Et en C, c'est comme en Java. Donc, c'est à ça qu'on reconnaît les programmeurs qui ont fait du Camel avant d'arriver à l'école, c'est qu'ils mettent toujours un then avant le P1, alors qu'il n'y en a pas besoin en Java et en C. Dernière construction, donc là, on a vu deux constructions extrêmement faciles, la séquence et le test. Et dernière construction, la boucle. Et la boucle va nous, pour la première fois, va nous apporter une nouvelle notion, qui est la notion de programme infini. Donc, comment est-ce qu'on construit une boucle? Ça ressemble beaucoup à un test, while, une valeur booléenne, entre parenthèses, suivie d'une instruction. Exemple, while x est inférieur à 1000, x est égal à x fois 2. Et qu'est-ce qui se passe quand on exécute cette instruction? Eh bien là, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On commence par calculer la valeur de B. Si la valeur de B est false, on a terminé. Si c'est true, on exécute P. Et puis, on calcule la valeur de B. Si c'est false, on a terminé. Si c'est true, on exécute P. Puis, on calcule la valeur de B. Si c'est false, on a terminé. Si c'est true, on exécute P. Puis, on calcule la valeur de B. Si c'est false, on a terminé. Si c'est true, on exécute P, etc. Et vous voyez que ici, si je divise par 2 la taille des caractères à chaque fois que je répète si c'est true, si c'est false, si c'est true, on a terminé. Si c'est false, on a terminé. Si c'est true, on exécute P. Eh bien, je vais arriver à faire tenir une infinité de fois cette ligne sur un transparent de taille finie. L'inconvénient est qu'à partir de là, ça continue, mais vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas assez de bons yeux. Donc, la chose à retenir, c'est que while B, Q, c'est une notation finie pour une instruction qui est en réalité infinie. Et on pourrait réécrire ce while B, Q uniquement en utilisant le test, ainsi qu'une instruction fictive qu'on va inventer qui s'appelle skip et qui ne fait rien. C'est-à-dire quand vous faites skip, ben vous ne faites rien. Et while B, Q, c'est la même chose que cette instruction infinie. If B, Q, if B, Q, if B, Q, if B, Q, blablabla. Elle skip, elle skip, elle skip, elle skip, elle skip. Bien, différence de syntaxe en C, aucune, en camel, while B, d'où P. Et là, il y a un point virgule entre eux. Qu'est-ce qui se passe quand j'exécute cette instruction? Je déclare une variable, alors mutable ou finale? Mutable, si j'avais voulu qu'elle soit finale, j'aurais écrit finale, j'ai rien écrit, donc je veux qu'elle soit mutable. Et heureusement, puisque je vais l'affecter ici, donc je déclare x est égal à 3, et tant que x est inférieur à 1000, je fais x égale 2. Quelle est la portée de la déclaration de x? Ben, c'est toute cette instruction. Ici, j'ai ouvert une accolade, ça va jusqu'à la fin de l'accolade. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais exécuter cette instruction? Eh bien, je vais faire le test, la réponse va être true, donc je vais exécuter le corps de la boucle, je vais changer la valeur de x qui de 2 va passer à 3, et puis ensuite, je vais répéter ça à l'infini, je vais tout le temps faire x égale 2, x égale 2, x égale 2, et le programme ne va pas terminer. Donc, tant qu'on utilisait la déclaration, l'affectation, le test, et la séquence et le test, il n'y avait pas de possibilité de programme qui ne termine pas, qui s'exécute à l'infini, et c'est la boucle qui introduit cette possibilité, et cette potentialité de non-terminaison, elle vient du fait que la boucle est une instruction infinie, écrite dans un langage fini, mais dont la signification est que c'est une instruction infinie. Bien, donc ça termine une description un petit peu informelle des différentes constructions qui constituent le noyau impératif de ces trois langages de programmation. Et vous avez vu en gros que Java et C, quand on se limite au noyau impératif, sont exactement pareils, à l'exception d'un mot-clé qui s'appelle final en Java et const en C. Bon, ça c'est, on n'y peut rien. Et à l'inverse, il y a quelques différences syntaxiques en camel, mais qui sont inessentielles. C'est juste à la syntaxe complètement superficielle, au niveau complètement superficiel de la syntaxe, qu'on écrit while do au lieu d'écrire while ou des trucs comme ça. Et puis il y a une chose qui a l'air de différencier camel des deux autres langages, c'est le fait que quand on a une variable mutable, eh bien on doit mettre un point d'interrogation avant cette variable pour parler de sa valeur, et on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors avant ça, on va parler des instructions d'entrée-sortie en Java, et on va pas s'étendre longtemps là-dessus, on va juste en parler en une minute. Quand vous voulez imprimer la valeur d'une variable, eh bien vous utilisez cette expression en Java qui est system.out.print, et puis vous mettez le nom de la variable, ou plus généralement une expression quelconque, entre parenthèses. Si vous voulez faire un retour chariot, revenir à la ligne, vous avez cette instruction system.out.println, suivie d'une parenthèse vide. Et si vous voulez imprimer la valeur d'une expression, puis retourner à la ligne, eh bien vous écrivez system.out.println de cette expression. Donc ça, c'est tout ce qu'on aura besoin de savoir sur les instructions de sortie. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque à la fin du module, vous verrez en TD un projet où vous ferez du graphisme, donc vous aurez besoin de tracer des points, de tracer des images, mais vous verrez, on verra à ce moment-là quelles sont les instructions qui permettent de dessiner. Alors, si on passe aux instructions d'entrée, Java est connu pour avoir des instructions d'entrée extrêmement complexes. C'est compliqué de lire quelque chose au clavier en Java. Et ça, c'est lié à la modernité de Java. C'est-à-dire l'idée que on écrit des choses sur un écran et qu'on lit des choses au clavier. Ça, c'est une idée qui était vraie dans l'informatique des années 80. Mais vous savez que maintenant, les ordinateurs sont en réseau. Et donc, quand on veut écrire quelque chose ou lire quelque chose, souvent, c'est à travers un réseau, sur un écran qui se trouve à l'autre bout du monde. Et donc ça, ça a rendu relativement complexe, en particulier les instructions d'entrée en Java. Et donc pour ça, on a écrit une petite interface qui se trouve au-dessus de Java et qui s'appelle PPL et qui a été écrite par Julien Servelle spécialement pour les élèves de l'école polytechnique. Et donc quand on utilise cette interface, on écrit ppl.lireInt et ça vous permet de lire un entier. Donc le programme s'arrête, vous tapez un entier au clavier et l'entier est retourné comme valeur de cette expression. Donc un usage typique, c'est x égale lire int de parenthèse parenthèse. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur les entrées-sorties. Et on va un tout petit peu réfléchir à la manière dont on a décrit les instructions, les constructions qui constituent le noyau fonctionnel, le noyau impératif. Donc je vous ai décrit ces constructions en utilisant une langue naturelle, le français. Et j'ai essayé d'être relativement clair. Ok, cependant, il y a déjà quelques différences. Supposez que je sois dans cette situation et que je fasse x égale y plus 2. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vous montre pas. Donc, vous avez y ici qui a la valeur 3, et je fais x égale y plus 2. Donc, il faut que je calcule la valeur de y plus 2. Y, il faut que j'aille voir sa valeur dans l'état courant, ici, c'est 3. Il faut que j'ajoute 3 à 2, ça fait combien? 5. Et il faut que je mette 5 ici. Supposez maintenant que je fasse y égale 4. Donc je vais enlever ce 3 ici, et je vais mettre 4 là. Est-ce qu'ici je garde 5 ou est-ce que je dois avoir 6? Ben, la réponse est la bonne, c'est 5, mais vous voyez que j'aurais pu tout à fait dire que dans x, je mettais non pas la valeur de l'expression, mais l'expression elle-même. X c'est y plus 2, et à chaque fois que je change la valeur de y, la valeur de x est changée d'une manière cohérente. Ok, ça serait possible. D'accord? Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas ça? Dans les explications que je vous ai données, c'est suffisamment confus pour que vous puissiez comprendre une chose ou l'autre. Cette différence ici, c'est la différence essentielle en informatique. Prenez par exemple une page web. Vous écrivez votre propre page web et vous voulez là-dedans mentionner les horaires de bus. Par exemple, vous avez compris que le plateau n'est pas super accessible, donc vous faites une page web pour vos amis pour qu'ils sachent comment venir vous voir sur le plateau. Et vous donnez les horaires de bus. Vous avez deux manières de donner les horaires de bus. Ou bien vous allez sur le site de la compagnie du bus, vous trouvez les horaires, et vous les recopiez sur votre propre page web. Ok? Quel est l'avantage? Si quoi? Alors, si jamais le site de la compagnie des bus est planté, eh ben c'est pas grave, vous avez une copie dans votre page des horaires et tout va bien. Mais quel est l'inconvénient? C'est que si les horaires de bus changent, votre page est devenue obsolète. Donc plutôt que de faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un pointeur sur la page des bus. Donc vous voyez que le système qu'on a ici sur l'affectation des variables, il correspond au premier système. On est allé chercher la valeur de y, on l'a lu, on l'a utilisé, et maintenant elle vit sa vie, elle peut changer, nous on l'a utilisé à un certain instant. Il y a d'autres langages dans lesquels on aurait mis dans la boîte x un pointeur vers y en disant n'oublie pas d'ajouter 2 à chaque fois que tu y accèdes, et à chaque fois qu'on aurait accédé à la valeur de x, on aurait recalculé la valeur de x. On va voir par exemple, quand on parlera des objets tout à la fin de ce cours, que un des grands avantages des objets, c'est que précisément on peut faire ça. C'est ce qu'on appelle la liaison tardive. Bien, donc l'explication que je vous ai donnée est relative et suffisamment confuse pour qu'on ait compris une solution ou l'autre. Et par ailleurs, l'explication que je vous ai donnée sur les boucles était quand même un tout petit peu légère. Je vous ai dit, oh, c'est une expression infinie, puis après, vous exécutez ça. Un jour, vous terminez peut-être, un jour, peut-être, vous ne terminez pas. Et donc, on peut vouloir exprimer ces choses de manière plus précise. Alors, à vrai dire, l'outil qu'on va introduire, qui permet de décrire la sémantique de ces constructions de manière plus précise, si on n'avait que le noyau impératif, on ne l'aurait sans doute pas inventé. Parce que pour le noyau impératif, malgré quelques petites imperfections, l'explication en langage naturel est relativement compréhensible. Et demain matin, quand on va voir les fonctions et le passage d'arguments, vous verrez qu'on peut interpréter ce que je vais vous dire en langue naturelle à peu près toutes les manières que l'on veut, et différents langages de programmation interprètent ces choses de différentes manières. Et donc, ça appelle ça une description plus mathématique de la sémantique de ces constructions, une description plus mathématique de ce qui se passe quand on exécute ces instructions. Et ce qui encore peut vous paraître un petit peu académique, devient tout à fait essentiel quand on écrit de nouveaux langages. Par exemple, il m'est arrivé de travailler avec une équipe qui développait un langage de programmation, qui était un langage de programmation pour des systèmes répartis. Et c'était des systèmes répartis et embarqués qui voulaient mettre dans des engins spatiaux. Et donc, ils voulaient relativement éviter qu'une fois que leur module était arrivé sur Mars, on s'aperçoive qu'il y avait une erreur dans le programme, que le programme ne faisait pas ce qu'on voulait. Donc, ils étaient prêts à vraiment faire un gros effort pour que le programme et le langage soient un petit peu bétonnés. Et donc, j'ai essayé d'écrire une sémantique pour ce langage de programmation. On était deux dans cette équipe. Et chaque jour, on venait avec un nouveau programme. On allait voir un type de l'équipe. On lui disait « qu'est-ce qui se passe quand on exécute ce programme ?» Il nous disait « ça fait 4 ». Et on allait voir un autre type, on disait « qu'est-ce qui se passe quand on exécute ce programme ?» Il disait « ça faisait 12 ». On allait en voir un troisième, il nous disait « ça fait 24 ». Alors on disait « bon, il est temps d'organiser une réunion où il y a tout le monde ». Puis on leur disait « toi tu m'as dit 4, toi tu m'as dit 12, toi tu m'as dit 24, maintenant mettez-vous d'accord ». Et on s'est aperçu que ces gens qui travaillaient ensemble, certains qui utilisaient le langage, d'autres qui écrivaient un interpréteur, d'autres qui écrivaient un simulateur, eh bien avaient une vision du langage complètement différentes les uns des autres, et c'est seulement comme ça, en mathématisant, qu'on a réussi à expliciter cette sémantique. Alors bien entendu, à la fin, ils nous ont dit quand même, les programmes que vous avez trouvés, c'est quand même des programmes très particuliers. Des programmes comme ça ne se produisent jamais dans la vie réelle. On leur a dit, oui, bien sûr, on était juste là pour justifier notre salaire, on voulait juste couper les cheveux en quatre, par bonheur de couper les cheveux en quatre, mais en fait, c'est pas exact. Si vous prenez un langage comme C, par exemple, qui a longtemps manqué d'une sémantique formelle, eh bien, vous pouvez prendre deux programmes C, deux compilateurs C, qui sont tous les deux très diffusés, et vous écrivez un programme qui fait une ligne, et dans un cas, ça met 4, et dans l'autre cas, ça met 7. Sur une instruction extrêmement simple, l'explication de ce que devait faire cette instruction était suffisamment confuse pour que deux équipes aient compris deux choses différentes, et donc vous avez comme ça des compilateurs qui vous donnent des résultats différents. Bien, donc repartons de ce qu'on a dit sur l'affectation. On a dit, quand on fait x égale t, on met la valeur de t dans la case x. Donc on a décrit ça en langue naturelle. En général, on donne des exemples, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit x égale 4, voilà, on met 4 dans x. X égale 8 plus 2, on met 10 dans x. Et ces exemples, ils ont toujours la faculté de couvrir les cas simples. Les cas compliqués ne sont jamais couvert. Donc même en tant qu'utilisateur, souvent on est démuni dès qu'on a un exemple un peu complexe. Et rappelez-vous, le but c'est d'écrire des programmes d'un million de lignes. Le but n'est pas d'écrire des programmes de 10 lignes. Et quand on veut écrire un interpréteur ou un compilateur, on ne sait pas quoi faire, donc on improvise. Et également, si on veut raisonner à propos des programmes, on a besoin d'une définition correcte. Exactement comme en géométrie, on a besoin de savoir ce que c'est un triangle. Si on ne sait pas ce qu'est un triangle, on ne peut pas raisonner à propos des triangles. Et quand on fait des analyses automatiques de programmes, a fortiori, on a besoin d'une sémantique claire. La sémantique de C a été beaucoup comprise quand on a fait des analyseurs syntaxiques, des analyseurs automatiques de programme C. Vous mettez un programme C dans une moulinette, vous lui dites est-ce que ça termine, est-ce que ça termine pas. La moulinette, de temps en temps, vous dit oui, de temps en temps, vous dit non, de temps en temps, vous dit je sais pas. Mais pour arriver à ça, il fallait avoir une sémantique très précise de C. Donc on va remplacer cette phrase par une définition mathématique. Alors d'abord, revenons à cette idée que on a une notion d'État, et la notion d'État, qui est la notion centrale dans cette sémantique, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble du contenu des boîtes à un instant donné. Et donc comment est-ce qu'on peut modéliser ça mathématiquement? Ben, très simplement, en se donnant un ensemble infini var dont les éléments sont appelés des variables, et donc les variables c'est des lettres de l'alphabet ou des mots de l'alphabet qui commencent par une lettre, enfin peu importe, c'est un ensemble infini. Et puis on a un ensemble dont les éléments s'appellent des valeurs, et les valeurs c'est des entiers compris entre eux de puissance moins 2 puissance 31 et 2 puissance 31 moins 1, des booléens, false, true, etc. Et un état, et ben c'est juste une fonction qui, à chaque variable, associe une valeur. Ok, ça c'est la manière la plus simple de dire associer une valeur à chaque variable. Ben, ça se fait avec une fonction qui associe. C'est pour ça qu'on a inventé la notion de fonction. C'est pour avoir des trucs qui associent des trucs à d'autres. Bien, donc, il y a une toute petite différence, c'est qu'ici, vous voyez que je n'ai que deux variables. Il n'y a pas de variable z, par exemple. Et ça, c'est toujours le cas dans un état. Je n'ai jamais un nombre infini de variables dans un état. Donc, comme j'ai un nombre infini de variables potentielles, dont la plupart ne sont pas déclarées, ce qu'il faut que je fasse, c'est définir un état comme une fonction d'une partie finie de l'ensemble des variables dans les valeurs. Et cette fonction, je vais l'écrire de cette manière, x égale 1, y égale 4. Et donc, pour ne pas vous embrouiller, je vais mettre ici x égale 1, y égale 4. Ce que j'ai sur la table ici, c'est un état, et ça, ça se traduit, ça s'écrit au tableau de cette manière, x égale 1, y égale 4. Maintenant, qu'est-ce que fait, c'est quoi l'exécution d'une instruction? Eh bien, quand on exécute une instruction, l'état va être transformé. Donc si j'exécute l'instruction x égale 5 dans cet état, je vais arriver dans cet état. Ok, dans cet état-là, le 1 disparaît, je mets le 5 à la place. Donc la signification d'une instruction, elle est définie par une fonction que je vais appeler sigma, qui prend en argument une instruction, un état, et qui donne un autre état. Par exemple, si j'exécute x égale 3 dans cet état, x égale 1, y égale 4, ça va me donner l'état où x est égal à 3 et y est égal à 4. D'accord? Donc la signification des constructions du langage se décrit par cette fonction sigma qui associe à une instruction et à un état, un autre état. Donc il ne me reste plus qu'à définir cette fonction. Alors en fait, je vais un tout petit peu compliquer les choses. Une fonction qui va des variables dans les valeurs, je vais la décomposer comme la composée de deux fonctions. Donc je vais mettre un ensemble intermédiaire qui s'appelle ref, c'est l'ensemble des références, et je vais décomposer ma fonction qui à chaque variable associe une valeur en deux fonctions, une première qui à une variable associe une référence, et une deuxième qui une référence associe une valeur. Bien, cette introduction de la notion de référence, on la justifiera demain matin. Jusqu'à aujourd'hui, vous devez me croire que c'est utile de décomposer comme ça l'état en une première fonction qu'on appelle un environnement et une deuxième qu'on appelle une mémoire. Mais juste pour vous donner une intuition de pourquoi c'est utile de faire ça, je vais vous poser une question. La température à Paris ce matin était de 14 degrés. Quelle était la température dans la capitale de la France? 14 degrés. Quelle était la température à Rome? 14 degrés. Ce matin, il faisait la même température à Paris et à Rome. Vous voyez que le fait qu'il fasse la même température à Paris et à Rome est vrai. À vrai dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais on va dire dans cet exemple. Et le fait qu'il fasse la même température à Paris et dans les capitales de la France est vrai aussi. Mais vous comprenez bien que c'est pour des raisons tout à fait différentes. Vous avez compris pourquoi? La capitale de la France, c'est Paris. Donc, on peut dire les choses autrement. Tous les jours, il fera la même température à Paris et dans la capitale de la France, alors que certains jours, il fait la même température à Paris et à Rome, et d'autres jours, non. Et ça, c'est parce que Paris et capitale de la France, c'est deux noms qui sont associés au même objet, qui lui n'a pas, enfin, il a plein de noms, mais c'est une référence, c'est l'objet que je désigne, et lui, je peux lui associer une température, et vous voyez que ici, je peux changer le lien entre la température et l'objet. De toute façon, si Paris et la capitale de la France sont envoyés sur le même objet ici, la température sera toujours la même. En revanche, Paris et Rome désignent deux objets différents qui peuvent, de manière accidentelle, être associés à la même température, mais qui n'ont aucune raison de l'être. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Donc, on va voir cet ensemble ici, l'ensemble des références. Si vous voulez, c'est vraiment l'ensemble des objets. Et le fait qu'il y ait plusieurs noms, eh ben c'est, ça arrive. Bien. Je vais reprendre exactement le même exemple que tout à l'heure. Maintenant, ma fonction sigma, elle va prendre toujours une instruction. Et puis l'état, je l'ai décomposé en deux choses, qui sont un environnement et une mémoire. Donc ici, au lieu d'avoir S, j'ai maintenant deux arguments, E et M. Et puis ce que je vais retourner, et ça c'est important, c'est uniquement une nouvelle mémoire. L'exécution d'une instruction ne change jamais l'environnement. L'exécution d'une instruction ne change que la mémoire. Et ça, c'est très important parce que l'environnement, il dégage à la compilation. Il ne reste que la mémoire au moment de l'exécution. Bien, donc, qu'est-ce qui se passe si j'exécute l'instruction x égale 3 dans cet environnement où x est associé à une référence R1, y est une référence R2, R1 est associé à 1 et R2 est associé à 4. Eh bien, exactement de la même manière que tout à l'heure, quand je fais x égale 3, ça va mettre un 3 ici. Et quelle est la nouvelle mémoire? Eh bien, c'est R1 est égal à 3 et R2 est égal à 4. Attention, ici, on ne parle plus de x et de y. X et y, on n'en parlait que dans l'environnement. Et maintenant, c'est R1, où il y avait 1 et maintenant, il y a 3. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme objet dans cette représentation pour les références? Est-ce que ça, c'est une référence? Non, ça, c'est une valeur. Est-ce que ça, c'est une référence? Non, ça, c'est une variable. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est ça, la référence. La référence, c'est la boîte elle-même. L'environnement, c'est mettre un nom à la boîte. Et la mémoire, c'est mettre un objet, une valeur dans la boîte. Donc voici la mémoire, voici l'environnement, et voici les deux à la fois. L'état. Voici un environnement dans lequel A et X désigne le même objet. Et je peux changer la valeur de cet objet, A et X désigneront toujours le même objet. En revanche, X et Y peuvent de temps en temps prendre la même valeur, de temps en temps non, mais ce n'est pas le même objet. Bien, alors jusque-là, tout était simple, mais les choses sont un tout petit peu compliquées par le cas des variables finales. Dans le cas où j'ai une variable finale, ici, x égale 3, eh bien, au lieu d'associer à x une certaine référence dans l'environnement, et à cette référence la valeur 3 dans la mémoire, ce que je veux faire, c'est associer directement la valeur 3 à x dans E, dans l'environnement. Et là, même intuition, l'environnement, c'est ce qui ne change pas. La mémoire, c'est ce qui change au cours de l'exécution du programme. Et comme la variable est finale, ben, sa valeur ne va pas changer. Donc je n'ai pas besoin, je ne veux pas associer 3 à une certaine boîte dans la mémoire, mais je veux que ça soit dans l'environnement. Du coup, mon environnement, il part des variables, mais à chaque variable, il associe ou bien une référence, Rappelez-vous, l'environnement, c'est la première fonction qui va des variables dans les références, ou bien maintenant une valeur, dans le cas des variables finales. Mais alors, pour éviter d'avoir besoin de faire l'union des références et des valeurs, il y a un petit truc qui consiste à dire les références, ce sont des valeurs comme les autres. Donc maintenant, les valeurs, ce seront non seulement les entiers, les booléens, les flottants, etc., mais également des références. L'ensemble des références est un sous-ensemble des valeurs. Du coup, l'environnement, il associe simplement à chaque variable une valeur, qui est une valeur comme 4, 5, true ou 6, 10 puissance 23, dans le cas où on a une variable finale, mais qui est une référence dans le sous-ensemble des références, dans le cas où on a une variable mutable. Et ensuite, la mémoire, c'est une fonction qui va des références dans les valeurs. OK ? C'est juste une question de un choix de formalisation. Ça va juste nous simplifier la vie plus tard. Bien, la représentation graphique, vous avez compris que la référence, c'est la case elle-même. L'environnement, ça consiste à associer un ou plusieurs noms à chaque case. J'ai pas dit que l'environnement était injectif. Deux noms peuvent être associés à la même case. Et puis, la mémoire, eh bien, ça consiste à mettre des valeurs dans les cases. Et là, vous voyez que la valeur de A peut changer, la valeur de X va toujours être égale à la valeur de A, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, dans ce type de représentation, si j'ai une variable X qui est finale, eh bien, je ne veux pas l'associer à une boîte, une référence, je veux l'associer directement à la valeur, et donc pour ça, je plante directement le nom dans la valeur. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de référence, c'est une variable finale, et ça restera lié comme ça dans l'environnement tout le temps. Donc c'est comme ça. Bien, alors reprenons la phrase en langue naturelle qui nous expliquait ce qu'était la fictation. On met la valeur de t dans la case x. Donc l'étape suivante, ça consiste à définir ce qu'est cette notion de valeur. Et pour ça, on va avoir une première fonction qu'on va définir avant la fonction sigma, qui est la fonction θ, et qui, elle, est une fonction extrêmement simple. Elle prend en argument une expression, t, ainsi qu'un état qui est décomposé en un environnement et une mémoire, et elle nous donne la valeur de cette expression dans cet état. Quand on a une constante, par exemple 4, ben la valeur c'est 4, et c'est indépendant de l'état. Quand on a une variable, eh bien il y a deux cas. Il y a le cas où la variable est mutable, auquel cas il faut que j'applique à x la fonction e, qui va me donner la référence, et ensuite que j'applique à cette référence la fonction m pour obtenir la valeur. Donc la valeur, ça va être m de e de x. Rappelez-vous que m rond e, c'est l'état. C'est la fonction qui, à chaque variable, associe sa valeur. Donc ici, c'est m rond e de x si x est mutable. Mais si x est final, rappelez-vous que e de x est directement la valeur. Donc c'est e de x dans le cas où x est final. Donc ça, c'était le cas des constantes, 4, true, 6, 10 puissance 23. Ça, c'est le cas des variables, où on doit distinguer si x est mutable ou x est final dans l'environnement. Donc l'environnement doit savoir si la variable est mutable ou finale. Et puis après, il y a tous les autres cas, mais qui sont les cas pas intéressants. Par exemple, si j'ai une expression qui est de la forme t plus u, eh bien je calcule la valeur de t, je calcule la valeur de u, et je les ajoute. Et puis pareil pour la multiplication, la soustraction, etc. Ici, je ne vous explique pas comment on fait une addition. Je suppose que vous savez déjà faire une addition sur des entiers. Alors je pourrais donner une sémantique plus précise, qui ne suppose pas qu'on sait faire des additions sur les entiers, et qui vous explique comment, sur la représentation binaire des entiers, on fait pour faire une addition. Est-ce que vous savez vraiment faire une addition? Plaçons-nous, pour simplifier, dans le type byte, dont les valeurs vont de moins 128 à plus 127. Et supposez que je fasse 127 plus 2. Quel est le résultat? Moins 127. Pas d'accord. Eh bien, vous avez tous tort. Ça fait un dépassement. Ça déclenche une erreur. Ah, effectivement, on a dit tout le monde sait, on s'aperçoit que tout le monde ne sait pas. Puis là, ce que vous dites, moins 127, c'est-à-dire on est dans Z sur 256Z et, avec un choix de représentant qui est moins 128, 127, donc on est sorti à gauche, on est sorti à droite, on rentre à gauche. Ou bien on peut dire c'est interdit et on a une erreur à l'exécution. Ou bien on peut dire, quoi d'autre? Ça reste 127. 127, c'est une espèce de plus l'infini, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, vous êtes complètement à droite, vous restez complètement à droite. C'est pas plus absurde que de revenir. Voilà. Ça a des propriétés algébriques différentes. Bon, donc il y a trois possibilités, et il y a des langages de programmation dans lesquels c'est l'un, il y a des langages de programmation pas. Et chaque compilateur, ou même le même compilateur sur deux ordinateurs différents, peuvent avoir des résultats différents. Ces questions de débordement et de dépassement, c'est ce qui a fait exploser la fusée Ariane 5. Donc Ariane 5, tout le monde n'avait pas la même compréhension de ce qui se passait dans le cas d'un dépassement, et c'est pour ça qu'elle a explosé. À vrai dire, les gens qui géraient l'explosion de la fusée ont une vision très très conservatrice. Ils disent, si jamais il y a un truc qui ne va pas, on fait exploser la fusée. Elle explose en vol, on a perdu 8000 mégaeuros, mais c'est pas si grave. Et elle n'est pas retombée sur Terre en tuant des gens. Donc eux sont dans la vision, dès qu'il se passe quelque chose qu'ils n'ont pas prévu, ils font exploser la fusée, comme ça, ils n'ont pas d'ennui. À l'inverse, ceux qui faisaient le programme disaient, bon, si ça dépasse, c'est pas grave, ça va revenir de l'autre côté. Donc les uns ont dit, on laisse dépasser, les autres ont dit, si ça dépasse, on explose. Tout le monde était d'accord, la fusée est partie, elle a explosé. Bien, en camel, la valeur d'une expression est un peu différente. Vous vous souvenez qu'en Java, la valeur d'une expression, quand on avait une variable, c'était ou bien m de e de x si x était mutable, ou bien e de x si x était final. Eh bien, en camel, c'est toujours e de x. Les concepteurs de camel ont dit c'est trop compliqué de distinguer ici mutable, final, donc on va dire c'est tout le temps e de x. Qu'elle soit mutable ou finale. Alors vous voyez que si vous avez une variable mutable, pardon, finale, ben e de x, c'est bien 5, exactement comme en Java, vous êtes content. En revanche, si vous avez une variable mutable, eh bien ici, e de x, c'est... C'est quoi? La boîte, R1. Et ce n'est pas 3. Donc comment obtenir 3? Eh bien, on rajoute ici un point d'exclamation devant la variable, et on peut rajouter un point d'exclamation devant n'importe quelle expression dont la valeur est une référence. Et on a cette nouvelle construction de camel, et la valeur de point d'exclamation t, c'est m de la valeur de t. Et donc vous voyez que dans le cas où x est mutable, la valeur de x en Java... c'est m de e de t, la valeur de x en camel, c'est e de t, et la valeur de point d'exclamation x, c'est m de e de t, comme était la valeur de x en Java. Et donc c'est ça qui explique qu'on mette point d'exclamation x en camel et point d'exclamation et x en Java dans le cas d'une variable mutable, alors que en Java, on met x dans les deux cas. Non, alors que pour une variable finale, on met x dans les deux cas. Bien, donc maintenant qu'on a la fonction θ, on est prêt à définir la fonction sigma. La fonction sigma qui a une instruction, un environnement et une mémoire vous associe une autre mémoire. Et on va commencer par la déclaration. Donc, rappelez-vous, quand on déclare une variable x, cette variable x ne peut être utilisée que dans Q, que dans l'instruction qui constitue la portée de cette variable, de cette déclaration. Et donc on doit exécuter Q dans un environnement étendu où X est lié à une certaine référence et une mémoire étendue où cette référence est liée à V. Mais ça, c'est uniquement pendant l'exécution de Q. Dès qu'on aura fini d'exécuter Q, on va revenir à l'environnement normal, à l'environnement courant. D'accord ? Donc ça, c'est la partie la plus compliquée de la définition de sigma. C'est que ici, on doit tenir compte du fait que la déclaration toute seule n'est pas une instruction. Ce qui forme une instruction, c'est la déclaration suivie de l'instruction qui constitue sa portée. Et on exécute sa portée, l'instruction qui constitue sa portée, dans cet environnement étendu. Alors, qu'est-ce que c'est que x ? Eh bien, c'est la variable qu'on déclare. Qu'est-ce que c'est que v ? Eh bien, c'est état de t, c'est état de la valeur initiale. Et qu'est-ce que c'est que r ? Eh bien, c'est une référence quelconque, qui n'apparaît pas déjà dans m. Donc, vous pouvez prendre n'importe laquelle des références. Regardez. Voici une référence. Voici une autre référence. Je mélange. C'est laquelle ? Eh bien, vous ne pouvez pas répondre. Donc, les références sont la sémantique des programmes est invariante par une permutation des références. Et ça, c'est une propriété des langages évolués. Quand vous programmez en langage machine, vous avez accès directement aux références et vous pouvez dire « je choisis telle boîte ». Dans un langage évolué, vous ne pouvez plus dire « je veux cette boîte-là ». C'est le compilateur qui choisit une boîte pour vous. Et donc, vous ne voyez pas la boîte, c'est-à-dire vous avez cette invariance par permutation. Bien, ça c'est le cas bien sûr de la variable mutable. Dans le cas de la variable finale, c'est plus simple. On lit directement x à v dans l'environnement et la mémoire ne change pas. Ok ? Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de l'affectation ? Là, c'était la déclaration. Maintenant, l'affectation. Ici, attention, c'est complètement différent. J'ai une instruction toute seule, c'est l'affectation x égale t. Et le résultat, c'est une nouvelle mémoire dans laquelle j'ai associé la valeur v, qui est la valeur de t, à quoi ? Non pas à x, bien sûr, mais à la référence à laquelle x est associé. Ok ? Si j'ai ici x qui est associé à cette référence, x qui est associé à cette référence qui contient la valeur 1 et que je fais x égale 5, eh bien, je mets le 5 dans e de x étant cette boîte. D'accord ? Ici, e de x égale v. Ce plus qui se trouve là, qui se trouve là, qui se trouve là, qui se trouve là, c'est la mise à jour d'un environnement ou d'une mémoire. M plus R égale V, c'est la mémoire qui, sur toutes les références, vaut la même chose que M, sauf en R où elle vaut V. Ok, ça c'est une notation générale sur les fonctions. Si ici vous avez la fonction sinus, et vous mettez plus 0 égale 4, ben c'est la fonction qui vaut sinus partout, sauf en 0 où elle vaut 4. Bon, cette fonction n'a pas un grand intérêt, mais ici, pour la mise à jour des mémoires et des environnements, c'est l'opération dont on a besoin. Ah, essentiellement, on a fait la partie la plus difficile, qui était l'affectation et la déclaration, puisque c'est ça qui définit la manière dont évolue l'environnement et la mémoire. Le cas de la séquence et du test sont extrêmement simples à définir. Qu'est-ce qu'on fait quand on exécute P1, P2 dans un environnement E ? Ben on exécute P1 dans E et dans la mémoire M, ça nous donne une nouvelle mémoire, M', et ensuite on exécute P2 dans E et M'. Attention, ici on utilise le même environnement E dans les deux cas. C'est la mémoire qui évolue, l'environnement, c'est ce qui est fixe, ça ne varie pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un test ? Eh bien, il y a deux cas. Si θ de la valeur de B, c'est true, alors la valeur de toute cette expression, de toute cette instruction dans E et dans M, c'est la valeur de P1 dans E et dans M. En revanche, si c'est false, c'est la valeur de P2. Donc là, on est juste en train de dire si c'est true, c'est P1, si c'est false, c'est P2. Bien, il nous reste à faire le cas de la boucle. Et la boucle, ça nous ça va nous présenter une nouvelle difficulté, non pas liée aux environnements et aux mémoires, parce que ça, on a terminé, c'était le problème de l'affectation et de la déclaration. D'accord, la gestion de l'environnement et de la mémoire, c'est l'affectation et la déclaration qui font ça. Mais la boucle pose un nouveau problème, qui est la possibilité de non-terminaison. Donc on avait vu qu'avec les quatre premières instructions, on ne pouvait écrire que des programmes qui terminaient. Et maintenant qu'on a une boucle, eh bien, on peut écrire des programmes qui bouclent. Donc dans ce cas-là, si on a un programme qui boucle, il faut qu'on prenne une certaine convention sur la valeur que va prendre la fonction sigma sur un programme qui boucle. Et là, on a deux possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire? Erreur. Donc plus généralement, donner une valeur particulière qui est sa boucle. D'accord? Ou, quoi faire? On a une fonction qui peut être définie ou non, et on peut décider que simplement la fonction ne sera pas définie en cette valeur quand ça boucle. Exactement comme 1 sur x n'est pas défini en 0, 1 sur x pris en 0, ça n'a pas une valeur spéciale erreur, parce que 1 sur x n'est pas à valeur dans R union erreur, elle est juste à valeur dans R, donc c'est une fonction partielle, et elle est définie en certains points et pas en d'autres. Et donc, c'est la convention qu'on va prendre. On va prendre la convention que sigma n'est pas défini sur un programme qui boucle, mais l'autre convention existe aussi, et en particulier en troisième année. Si vous prenez le cours de théorie des langages de programmation, vous verrez que rajouter un entier spécial qui est je boucle, eh bien ça amène à un autre type de sémantique que ce qu'on décrit ici. Bien, donc on disait la boucle, c'est essentiellement une instruction infinie pour cette instruction, une notation finie pour cette instruction infinie. Et comme toujours, quand on a des objets infinis en mathématiques, on cherche, et en informatique c'est pareil, on cherche à les approcher, à les approximer par des objets finis. Donc par exemple, pi, qui est un nombre infini de décimales comme vous le savez, ben on l'approche par 3, 3,1, 3,14, 3,141, etc. Donc là, on va faire pareil, et on va considérer une suite de programmes qui essentiellement font ça. Ils essayent de faire la boucle au maximum n tours. Donc ils se donnent un temps a priori, ils disent je vais faire n tours de boucle. Si au bout de n tours, j'ai trouvé un résultat, ben voilà, je donne le résultat. Si au bout de n tours de boucle, je dois encore recommencer une boucle, eh bien, je dis j'abandonne. J'ai l'impression que le programme boucle. C'est peut-être pas vrai, peut-être que le prochain tour de boucle, c'est celui qui aura terminé, mais c'est pas grave, c'est l'approximation suivante qui va s'en rendre compte. Donc, ici, j'avais introduit une instruction skip qui ne faisait rien. Alors, la fonction sigma appliquée à skip, c'est facile, ça rend m. Et j'ai besoin d'une nouvelle instruction qui est j'abandonne, qui s'appelle give up. Et sigma n'est jamais défini en give up. Si j'abandonne, ça boucle, je ne rends pas de valeur, je n'ai pas de valeur. Et donc voici comment on construit cette suite d'approximations. P0, c'est un programme peu ambitieux qui essaye de terminer la boucle en zéro tour. Donc si jamais B est faux, bon ben c'est très bien, on dit j'ai terminé. Mais si B est vrai, on dit ah, il faudrait que je fasse un tour de boucle, j'abandonne. Donc c'est une vision très très paresseuse de la boucle. P1, bah, ça essaye de faire un tour de boucle. Donc si B est vrai, pardon, si B est faux, on termine. Si B est vrai, on exécute Q. Et puis maintenant, si B est vrai et faux, on arrête. Et si B est vrai, bah, on ne va pas faire un deuxième tour de boucle. On est trop fatigué, on s'arrête tout de suite. Et vous voyez que P1... c'est if B Q P0, else skip. Et donc ça me permet de définir ma suite P1 PN par récurrence. PN plus 1, c'est if B Q PN, else skip. OK? Donc exercice, vous pouvez écrire P1, P2, P3, P4, jusqu'à ce que vous ayez complètement compris comment on fabrique ces expressions. Maintenant, P1, P2, P3, P4 sont des expressions qui ne contiennent plus de while, ou qui au moins contiennent un while de moins que P, là, dont j'étais parti, parce qu'il se peut qu'il y ait encore des while dans Q, mais ça, c'est pas grave. Et donc, je peux définir la fonction sigma en Pn. Donc, je peux regarder ce que vaut la fonction sigma en P0, en P1, en P2, en P3, en P4. Et donc là, il est assez facile de voir qu'il y a deux possibilités. Ou bien la boucle va vraiment terminer. Auquel cas, elle va forcément terminer après 24 tours. Ou 27 tours, peu importe. Mais il y a un entier où elle va terminer. Et dans ce cas-là, sigma de P0, ça va être quoi? Indéfini. Sigma de P1, indéfini. Sigma de P23, indéfini. Sigma de P24, bah, le résultat, la mémoire que je vais obtenir. Puis sigma de P25, sigma de P26, sigma de P27, ça va être la même chose. Donc j'ai une fonction qui n'est pas définie, qui n'est pas définie, qui n'est pas définie, puis qui prend une certaine valeur, qui est la mémoire, l'état mémoire à la fin de l'exécution, et qui ensuite vaut cette valeur. Donc c'est des fonctions extrêmement simples que j'ai. J'ai pas défini, pas défini, pas défini, pas défini. Hop, M, et elle est constante sur son domaine de définition. Dès qu'elle est définie, elle est constante partout. Et puis, il y a un deuxième cas, c'est le cas où la boucle ne va effectivement pas terminer. Et donc, dans ce cas-là, que valent sigma de P1, sigma de P2, sigma de Pn? Eh bien, c'est jamais défini. Donc, j'ai deux possibilités. J'ai une fonction qui n'est ou bien jamais définie, ou bien qui n'est pas définie sur un segment initial, et puis qui, à partir d'un certain point, est définie, et dans ce cas-là, elle est constante. Donc là, je peux définir une notion de limite d'une telle suite. La limite d'une telle suite, ben, si jamais elle est définie, ben, c'est la valeur qu'elle prend sur son domaine de définition. Je vous rappelle qu'elle est constante sur son domaine de définition, donc elle prend une seule valeur, c'est la limite. Et puis si elle n'est jamais définie, ben, sa limite n'est pas non plus définie. Et donc, comme étant la limite de M. Donc voilà une manière, certes un peu compliquée, mais précise, de définir la fonction sigma, la sémantique de la boucle. Donc voilà pour résumer la sémantique de tout le langage Java, enfin au moins de tout le noyau impératif. Et vous voyez que ça tient sur un transparent. Et donc il n'y a pas besoin d'écrire un livre de 700 pages pour apprendre à programmer en Java, il suffit de savoir lire ce transparent. Donc vous pouvez imprimer ce transparent, faire une espèce d'anti-sèche, et vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette partie de Java. Voilà, alors demain matin, le cours est à 8h30, et mettez votre réveil, on est en point carré, et mettez votre réveil parce que c'est le cours le plus important de l'année. Disons, c'est le cours où, si vous manquez ce cours, vous ramerez un peu pour rattraper. Le cours d'après-demain sera beaucoup plus facile. Donc, ne séchez pas demain, même si c'est tôt. D'ici demain, je vous propose de faire ces deux exercices, 1.5 et 1.9. Et demain, nous parlerons des fonctions.